Quelle joie de vous revoir tous ensemble pendant plusieurs mois. On avait l'impression de parler à deux entités différentes. Hein, et c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous voulons faire de notre mieux pour tout respecter comme consigne sanitaire. Donc c'est pour cela que, si les frères vous demandent de vous asseoir tous en même famille sur un même banc, il faut déjà, vous devez le savoir. Hein. On est en famille, on se met ensemble pour laisser les autres places pour ceux qui sont seuls. Voilà. Mais nous comptons sur notre Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ. Hein. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui fait au ciel ce qu'il veut. Il le fait sagement, avec amour et avec bonté pour chacun de nous. Donc nous voulons apprendre à lui faire confiance. Hein. Nous ne pouvons pas nous placer nous-mêmes entre nos propres mains pour essayer de garantir notre propre sécurité. Ça ne marche pas. Il faut être prudent, mais en même temps, la confiance doit être vraiment dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on compte sur vous hein, pour respecter tout ce que les frères nous donnent comme consigne, les sens de circulation. Je profite pour le dire maintenant. Et puis, on va pas faire de grands attroupements, méli-mélo, etc. Hein. On essaiera. Bon, il faut qu'on parle un peu les uns avec les autres, mais on attendra que les groupes se défont avant de grossir, hein, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, parce qu'on veut garder en même temps ce bon témoignage auprès de ceux du dehors. Et vous savez que les églises sont certainement très scrutées en cette époque. Il faut toujours trouver des boucs émissaires et, comme par hasard, c'est là qu'on va les chercher. Je vous invite à lire, à vous mettre debout. Nous allons lire Romains chapitre 8. Tu peux afficher, s'il te plaît. Nous allons lire le chapitre dans son entier. Romains chapitre 8. Nous allons lire le chapitre dans son entier. Donc, il y a 39 versets. Mais c'est la parole de Dieu et nous voulons la lire avec attention. Pensez à ce que nous lisons, demander à Dieu d'écarter de notre esprit toute autre chose pour que nous puissions lire sa parole. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est une parole qu'on a envie de lire, et puis on s'assoit, et puis on a envie de les laisser, de laisser ces choses, n'est-ce pas, pénétrer notre cœur. Asseyez-vous. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains constitue ce que beaucoup appellent le sommet de l'Épître aux Romains. Les derniers versets que nous avons lus, versets 28 jusqu'au verset 39, sont considérés comme le point culminant, peut-être de la Bible tout entière, avec ce que l'apôtre Paul dit ici. Le sommet d'une montagne, on a l'impression, de laquelle on observe avec confiance tout ce qui pourrait se passer dans le monde. Et un commentateur appelle ces versets-là, il dit que c'est l'Everest, c'est le mont Everest, hein, les derniers versets que nous avons lus de l'Épître aux Romains. Dans les chapitres précédents, hein, l'apôtre Paul explique la notion, bien sûr, du péché et de la justification. Donc ça commence à partir de Romains chapitre 1, verset 16. Et puis il explique, bien sûr, le péché, la colère de Dieu qui demeure sur ceux qui retiennent injustement la vérité captive. L'apôtre Paul développe le fait que les juifs avec la parole et les non-juifs sans la parole, sans l'écriture, eh bien, sont tous des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis ensuite, il explique la solution que Dieu apporte. Et il parle de la justice de Dieu. Dieu fournit lui-même une justice. Et au chapitre 3, il explique que c'est cette justice que Dieu manifeste et que c'est en recevant par la foi cette justice que l'on est justifié. Et au chapitre 8, vous savez, au chapitre 7, chapitre 6, hein, il parle beaucoup du péché, du pouvoir du péché, le fait que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Puis il arrive au chapitre 8, où il y a beaucoup de questions, si vous avez fait attention, de l'Esprit Saint et de l'action de l'Esprit Saint. Le chapitre 8, c'est un peu l'adoption, hein, le chapitre de l'adoption. Il dit que nous avons reçu l'Esprit par lequel nous pouvons dire « Abba, Père », ce qu'il dit. Et puis il parle de tout ce que l'Esprit fait, hein. Il dit que c'est par l'Esprit que nous avons par l'Esprit le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu, nous l'avons lu, hein, nous assiste dans nos prières parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et puis il dit que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, bien, ressuscitera aussi notre corps ici. Et puis il parle de l'Esprit que Dieu donne pour mettre en œuvre le merveilleux dessein de Dieu qui est décrit ici au chapitre 8 et au verset 29, quand il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est tout le projet de Dieu pour ceux qu'il rachète. Rendre chacun de ses élus, comme il le dit, semblable à l'image de Christ. Et le but, le rôle de l'Esprit, c'est de sanctifier les enfants de Dieu, les transformer, pour les rendre de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et un jour, nous savons que ça sera parfaitement, hein, ça aura abouti parfaitement. Et donc, dans ce chapitre ici, je voudrais considérer les derniers versets du chapitre, enfin plutôt les versets 31 jusqu'au verset 34 dans un premier temps. L'apôtre Paul pose une question. Il dit au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et c'est intéressant cela parce que voilà, on lit beaucoup de choses ici, tout le chapitre. Ouais, c'est vraiment un chapitre qui est très dense. Nous avons lu, on a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui sont dites à propos de l'œuvre de Christ et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et l'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc de ces choses? Et c'est un appel à laisser les choses nous pénétrer dans leur vérité. Il fait la même chose au chapitre 4, verset 1. Si vous regardez chapitre 4, verset 1, il dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Que dirons-nous de cela? Et puis après, il développe, hein, au chapitre 6, et au verset 1, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et puis après, il développe tout ce qu'il veut dire ici. Et puis aussi, au chapitre 8, quand nous lisons cela, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est-à-dire que quand on lit ces choses, quand on sait ces choses, on doit pouvoir dire des choses à partir de cela. Se dire des choses à partir de cela. Pas n'importe quoi. Dire ce que ces choses disent réellement. Pour le croyant. On ne peut pas rester, ce ne sont pas des vérités qu'on lit le dimanche matin, puis on ferme la Bible, c'est fini, on rentre et on vit une semaine, sans même faire attention à ces choses. Et il est question ici, bien sûr, nous l'avons dit ce matin, de la rédemption, du fait que Dieu rachète et du plan, du merveilleux dessein de Dieu pour ses enfants. Et l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que l'on va dire de tout cela? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment est-ce que on peut vivre? Et il s'adresse à des personnes qui connaissent des difficultés. Hein. Chapitre 8, verset 35, il dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ?» Il parle de toutes ces choses. Et certainement, c'est les destinataires ici vivent des choses difficiles, comme nous pouvons vivre aussi des choses difficiles, comme nous vivons actuellement des choses difficiles dans notre monde. Et l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il dit de tout ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il dit du merveilleux dessein de Dieu? Que dirons-nous donc de ces choses? Et donc, toutes ces vérités qu'il a déjà, justement, dans les chapitres précédents, mais aussi dans ces versets qui précèdent juste ici, toutes ces vérités qui sont conséquentes au salut, eh bien, ne sont pas simplement des choses à savoir, mais des fondements solides sur lesquels la confiance du croyant et son assurance ne seront pas ébranlées dans les temps que nous vivons. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et ce qu'il dit, c'est quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Le « si », ce n'est pas un doute, hein? C'est puisque Dieu est pour nous. Et il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Eh bien, toutes ces choses nous disent que Dieu est pour nous. Et il amène le croyant à réfléchir à cette réalité. Dieu est pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est pour nous? Et donc, pour étayer cela, je crois que l'apôtre Paul pose encore d'autres questions qui sont ce qu'on appelle des questions rhétoriques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des questions où il faut aller chercher la réponse. Ce sont des questions dont la réponse est évidente pour tout le monde. Et il pose, moi je vois 4 questions, hein. Je prends ces 4, il y en a un petit peu plus, mais verset 31, il dit, qui sera contre nous, si Dieu est pour nous? Verset 32, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Verset 34, il dit, qui les condamnera? Et verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc ces questions visent qui aurait tendance à faire douter le croyant de l'œuvre de Dieu à son égard. Et ce sont des questions qui ne sont pas des devinettes, comme je l'ai dit, ce sont des questions dont la réponse attendue est évidente. Qui? Personne, la réponse, ou rien du tout. Qui sera contre nous? Personne. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Qui les condamnera? Personne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. C'est la réponse que Paul donne. Ici, l'apôtre Paul donne, que l'Évangile nous donne à ces questions. Mais bien sûr, il ne va pas y répondre en disant personne. Il va y répondre en attirant, si vous faites attention, le regard du croyant vers des réalités, vers ce que Dieu a fait, vers ces choses que Dieu a fait, vers les conséquences de ces choses. Alors, je propose que nous suivions un peu ces 4 questions, mais peut-être la 4e, on ne va pas la voir aujourd'hui, mais ces 4 questions pour comme guide, hein, comme plan pour le message ce matin. Et j'ai intitulé ce message ce matin, « Dieu est pour nous, ses enfants. » Dieu est pour nous, ses enfants. Donc l'apôtre Paul, je dis, il n'apporte pas de réponse à cette question, mais il présente à chaque fois un roc, un rocher sur lequel le pied de la foi peut se poser. Hein. Si vous avez déjà fait un peu de randonnée à la rivière, hein, cet été, l'été dernier plutôt. L'été dernier, on était aux Antilles, on a fait quelques rivières, on a de belles rivières là-bas, avec des beaux cailloux, hein, c'est magnifique. Hein. Mais c'est glissant souvent, hein, et vous pouvez pas, on peut pas courir comme ça, il faut vraiment poser ses pieds à des endroits bien certains. Donc ce qu'on fait en général, puis avec on a une eau qui est tumultueuse, hein, eh bien qu'est-ce que l'on fait? On cherche des cailloux qui sont bien costauds et bien posés, on teste bien et on pose à chaque fois le pied là-dessus, on avance ainsi pas à pas en posant ses pieds sur des cailloux fermes. Eh bien, c'est la même chose hein, que le croyant doit faire, que Paul met en évidence ici pour le croyant qui vit dans des situations difficiles hein, et il apprend à contre ce qui pourrait nous accuser, ce qui pourrait nous affecter, contre les troubles, contre toutes les choses qui pourraient nous arriver, à poser le pied sur des fondements sûrs, sur un roc sûr. Et la première chose qu'il fait ici, donc si vous regardez la première question, donc verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je prends le verset 32 comme la réponse qu'il donne à ça. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc le premier jalon, si je voudrais, si on peut dire, que je voudrais poser ici, c'est que le don, Paul montre que le don du Fils de Dieu est la mesure de la bonne disposition de Dieu à l'égard du croyant. Le don que Dieu a fait, le don du Fils de Dieu, témoigne que Dieu est favorablement disposé à l'égard de ses enfants. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Autrement dit, personne ne peut être contre nous quand Dieu est pour nous. Alors bien sûr, si on pose la question simplement, qui sera contre nous? Eh bien, franchement, il y a une tonne de choses contre le croyant, honnêtement, n'est-ce pas? La Bible dit même que le croyant, quand l'évangile pénètre dans un foyer, eh bien, les gens ont comme ennemis les membres de leur propre famille. Parfois, nos propres frères ou sœurs, nos parents ou enfants peuvent se soulever contre nous parce que nous nous attachons à Jésus-Christ ou à l'évangile. Il y a ici des gens qui connaissent des difficultés dans leur foyer, dans leur famille, parce qu'ils sont au Seigneur. Et donc, on pourrait pointer beaucoup d'ennemis, on pourrait dire, hein, beaucoup de circonstances, de choses qui se dressent en ennemis contre le croyant. On a coutume de dire que, selon l'Écriture, les chrétiens, ils ont trois ennemis. Si vous avez fait le cours Vérité fondamentale, je pense que c'était avec Timothée, ce cours-là, vous avez vu les trois ennemis, selon Éphésiens 2, du chrétien, qui sont sa propre chair, le monde et puis le diable. Hein. Éphésiens 1 et 3, je vous lis, dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince, donc ça c'est le monde, le prince de la puissance de l'air, ça c'est le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et puis il ajoute, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. La chair, le diable et le monde sont les ennemis. Souvent. Et on serait tenté de répondre, comme je disais tout à l'heure, à la question de Paul, bien, finalement, on n'a que des ennemis hein, quand on est au Seigneur, que ce soit dans le milieu du travail, parfois c'est peut-être dans le voisinage, etc. Mais la question de Paul n'est pas qui sera contre nous. La question est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou plutôt, puisque Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et donc, il dit, en fait, Dieu est pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est... Il faut essayer de penser à cela. Je me souviens, quand j'étais dans les petites classes, hein, au CP, en Martinique et tout ça, et il y avait souvent des bagarres dans la cour de récréation, à cette époque déjà, vous voyez. Hein, peut-être, je ne sais pas si Charles ou Eddie se rappellent de ces choses comme ça, mais il y avait des bagarres, et puis souvent, il y en avait un qui était un peu plus fort que les autres. Hein, et donc, c'était toujours le vainqueur. Ils avaient l'habitude souvent de prendre sous leurs ailes quelques plus faibles quoi. Et on aimait bien s'associer à ceux qui étaient les victorieux. Surtout s'ils disaient, je suis pour toi, viens avec moi. Et on se sentait en sécurité parce que, eh bien, on avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver parce que le plus fort, il est pour nous, hein, n'est-ce pas? Et on pouvait regarder les autres, même les provoquer, sachant qu'on a de la protection. Par ailleurs, eh bien, c'est un petit peu à une échelle beaucoup plus infiniment plus grande, ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Dieu, le créateur de l'univers, celui qui domine sur le règne des hommes, celui qui établit les uns, qui élève les uns et qui abaisse les autres, celui qui fait ce qu'il veut sans que personne dise « Que fais-tu ?» Eh bien, il dit, lui, il est pour vous. Et quand il dit « vous », il dit pas tout le monde. Il parle à ceux qui sont ses enfants. Ici, hein, on le voit un peu plus loin quand il parle de qui accusera les élus de Dieu. Tous ceux qui ont placé en lui leur confiance, tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il dit Dieu, l'apôtre Paul dit, Dieu est pour vous. Le Dieu souverain, tout-puissant, omniscient, il est pour vous. Alors, qui peut être contre vous? On pourrait se poser la question, mais comment est-ce que Dieu est pour nous? Comment puis-je savoir que Dieu est pour moi? Et c'est la réponse que donne l'apôtre Paul dans ce qui suit ici. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et donc Dieu est pour nous parce que Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Ça, c'est une manière par laquelle on peut considérer comment Dieu est pour nous. Paul affirme, ne dit pas que Dieu a donné son fils, il dit que Dieu a donné son propre fils. Et ça, c'est une chose, c'est un point qui est important à souligner ici. On trouve la même chose dans ce que nous avons lu en Romains, chapitre 8 et au verset 3, il dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. » En disant cela, l'apôtre Paul souligne, premièrement, que Dieu n'a pas juste envoyé quelqu'un. Dieu a envoyé son propre fils avec lequel il a une relation toute particulière et affective. L'idée ici, c'est de mesurer l'ampleur du don que Dieu a fait. Quand il dit Dieu, lui qui n'a point épargné son propre fils, il nous amène à penser à la grandeur du don que Dieu a fait. Et la grandeur du don se mesure dans le fait qu'il a envoyé quelqu'un avec qui, de toute éternité, il entretient une relation d'amour particulière. C'est celui qui est le bien-aimé. C'est ce qu'il montre ici. Dans l'évangile de Jean, par exemple, Jean donne à Jésus est présenté comme le Fils unique. D'accord? Nous avons dit tout à l'heure, je l'ai sous les yeux, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu et si nous sommes conduits par Dieu. Mais nous ne sommes pas fils de Dieu au même titre que Jésus est fils de Dieu. Lui, il est présenté le Fils unique de Dieu. Et cela, ça a une signification. Nous sommes des fils d'adoption. D'accord. Lui, il est fils d'une relation unique avec le Père. Et dans l'évangile de Jean, vous vous rappelez, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et donc, c'est important de considérer que cet amour-là se mesure non pas parce que Dieu a donné son Fils, mais parce que Dieu a donné son Fils unique, celui avec lequel il entretient une relation particulière. Et pour mettre ça en évidence ici, on va regarder Luc, je vais vous lire, ne cherchez pas, Luc chapitre 7, verset 12, où la Bible insiste parfois sur le caractère unique d'un fils pour mettre en évidence la force de l'affection que l'on a. Par exemple, en Luc chapitre 7, il est question d'une mère qui porte son fils pour l'enterrer. Luc 7, verset 12 dit, « Lorsqu'il fut près de la porte, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, fils unique de sa mère qui était veuve. Hein. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère. » Et c'est écrit comme ça pour nous faire sentir que cette femme était veuve et elle a un fils, c'est son seul fils, et elle le perd. Et ça montre la force de l'affection et de la douleur donc qu'il doit y avoir dans cette séparation. Ici. Luc chapitre 9, verset 38, par exemple, nous lisons, et voici du milieu de la foule un homme s'écria à Jésus, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Encore une fois, il dit, il joue sur le fait que c'est son unique pour montrer tout l'attachement qu'il y a entre eux et toute la douleur de voir ce fils qui est malade. Et donc ces versets expriment bien plus le fait que fils unique, c'est le seul fils. C'est pas simplement ça qu'on veut mettre en évidence, mais on veut mettre que parce qu'il est le seul fils, il est l'objet d'une plus grande affection. Mais c'est encore beaucoup plus que cela lorsque l'apôtre Paul parle du propre fils de Jésus ou l'apôtre Jean parle du fils unique. Il faut aller jusqu'à Abraham pour comprendre ce que ça veut dire. Dans la Genèse, chapitre 22, verset 2, verset 12, verset 16, ou dans Hébreux, chapitre 11, verset 17, quand il est question d'Abraham, eh bien, il est question qu'il n'a pas refusé d'offrir son fils unique. Mais lorsque, dans le cas d'Abraham, Dieu lui demande d'offrir son fils qui s'appelait Isaac, combien de fils avait Abraham ? Deux, il y avait déjà eu Ismaël. Et pourtant, à plusieurs endroits, je vous dis, hein, Genèse 22, 2, Genèse 22, 12, Genèse 22, 16, et même Hébreux 11, 17, ici, il est présenté comme le fils unique. Pourquoi c'est le fils unique? Il y en a deux. Ça veut dire que c'est le fils avec la promesse. Il y a une relation particulière entre ce fils-là et Abraham. Il est aimé d'une manière particulière, spéciale, spécifique, parce que c'est le fils de la promesse. D'accord ? Et donc, en ce sens, il est considéré comme unique. Et il faut monter un petit peu, on peut au-dessus de ça pour voir, pour saisir un peu quand l'apôtre Jean dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il insiste d'abord sur la nature de la relation qui existe entre Dieu et Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Paul dit que lui qui n'a pas épargné son propre fils, il insiste aussi sur cette relation particulièrement forte d'affection éternelle qui existe entre le Père et le Fils. Et ainsi, il veut faire comprendre l'ampleur du don qui a été fait. Il y a des gens qui disent que Jésus est devenu fils juste avant que le Père l'envoie, etc. Il y a des théologies qui... Non, il est le Fils de toute éternité, et Dieu entretient avec son Fils, Dieu le Père avec son Fils, une relation éternelle d'amour. Et c'est ce Fils-là qui l'envoie. Vous voyez? Et Paul dit, si Dieu a fait ça, comment pouvez-vous penser qu'il ne vous donnera pas toute chose avec lui? Comment pouvez-vous penser qu'il n'est pas avec vous? Il dit, il est pour nous. Il est pour nous. Parce qu'il n'a pas épargné son propre fils pour pouvoir nous épargner. Donc le titre de fils propre fils ou fils unique indique vraiment que le Père aime Jésus et que le don qu'il a fait est un don immense, immense, que l'on ne peut même pas mesurer avec notre intelligence. Mais on peut comprendre que c'est un don immense. Et il dit, il ne l'a point épargné, mais il l'a livré. Donc ce que Dieu avait de plus précieux, chers frères et sœurs, le Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection, il ne l'a pas épargné. Il n'a pas dit, non, je le garde, je ne peux pas faire ça, il faut sauver les hommes, mais ça, il faut trouver notre... Non, je l'aime trop. Il dit, il ne l'a pas épargné. Il ne l'a pas épargné, mais il l'a livré. Nous pouvons lire dans l'Écriture, beaucoup d'endroits où il est dit que Jésus a été livré. Judas a livré Jésus, n'est-ce pas? Les principaux sacrificateurs, la Bible nous dit, ont livré Jésus à Pilate. Pilate a livré Jésus à la foule pour qu'il puisse le crucifier. Mais c'est quelque chose quand même de lire que Dieu lui-même, le Père, a livré son propre fils. Son propre fils, son unique fils, il dit. Et l'apôtre Paul ajoute, pourquoi l'a-t-il fait? Pour nous, regardez le verset. C'est lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous. Pour nous. D'accord? Et c'est là qu'on mesure vraiment l'amour de Dieu, dans l'ampleur du don qu'il a fait, dans ce que ça a coûté. C'est ça que l'apôtre Paul dit, nous avons été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Alors bien sûr, le prix, on pense souvent à la mort de Jésus-Christ. Et oui, cela est compris aussi. Mais il y a aussi tout ce que cela a coûté à Dieu. C'est son propre fils, son unique, qu'il a livré pour nous. Et Paul dit ici, comment est-ce qu'il ne nous donnera pas toutes choses en lui? Le prophète Isaïe dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, n'est-ce pas? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Voyez ça ici, hein? C'est Dieu lui-même qui a frappé son propre fils. Il ne l'a pas épargné, mais il l'a livré, il l'a frappé, il l'a humilié pour nous. Il dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà ce que Dieu a fait en la personne de Jésus-Christ. Il n'a pas épargné son propre fils afin de nous épargner de sa colère. Et on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu sans avoir une juste pensée de la colère de Dieu qui demeure sur les fils de la rébellion. La Bible, c'est pour ça que l'Épître aux Romains commence avec la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et l'Écriture, dans son ensemble, nous montre que Dieu est en colère contre le péché et le pécheur. On l'a vu la dernière fois, qu'il bande son arc, qu'il vise et qu'il tire, n'est-ce pas? Et son amour se montre dans le fait qu'il veut nous épargner de cette colère. Et il n'épargne pas son propre fils. Et il le place entre nous et sa colère. Et il le frappe pour que nous puissions être sauvés. Et Paul dit, si Dieu a fait ça, comment ne pouvez-vous pas croire qu'il est pour vous et qu'il est favorablement disposé à votre égard pour vous garder, pour vous protéger? Même si vous allez mourir, même si vous allez être malade, mais Dieu est pour vous. Hein? Et il vous donnera toutes choses, dit l'apôtre Paul aussi. Je termine avec cela ici dans ce point. Il vous donnera aussi toutes choses en lui. Regardez cela ici, c'est la garantie de sa disposition favorable. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il ne dit pas que Dieu nous donnera toutes choses. Il ne dit pas que Dieu nous donnera toutes choses. Tout ce qu'on demande, il nous donne. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, il nous donnera toutes choses avec lui. C'est-à-dire que on ne peut pas trouver plus à demander à Dieu, plus haut, plus grand, plus précieux que ce qu'il a déjà fait en Jésus-Christ. C'est impossible. Tous les dons, imaginez à quoi que ce soit que vous puissiez demander à Dieu, quoi que ce soit, la plus grande chose possible que vous puissiez lui demander, ça sera infiniment en dessous du don de Jésus-Christ, du don que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Donc Paul dit, tous les dons sont inclus dans celui-là. D'accord? Et tous les dons doivent dépendre aussi de celui-là. Dieu veut nous donner des choses qui dépendent de cet amour qu'il a manifesté à la croix du Calvaire. Donc il nous donnera toutes choses, bien sûr, mais en lui. Il nous donnera toutes choses pour supporter la difficulté, pour supporter le virus, pour supporter la maladie, pour ne pas avoir crainte de sortir, ne pas avoir crainte de se réveiller. Il nous donnera de quoi surmonter toutes ces choses. Et même si, hein, comme nous le disons dans le cantique, notre corps se détruit, bien on sait que nous savons que nous serons avec lui. Nous n'avons aucune crainte à avoir. Il nous donnera toutes choses en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Parce qu'il a manifesté déjà qu'il nous a rachetés, qu'il nous a épargnés de la plus terrible chose qui puisse nous arriver. Ce n'est pas le virus. Ce n'est même pas la mort. C'est la colère de Dieu. Et cela, la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont épargnés de la colère de Dieu. Verset suivant, il dit, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et donc, Paul répond à cette deuxième et troisième question, je crois, en disant que la perfection de l'œuvre de la rédemption, on a parlé de la rédemption ce matin, accomplie par Jésus-Christ, est le rempart, est un rempart contre toute culpabilité. Hein. La perfection de l'œuvre de la rédemption, qui est accomplie par Jésus-Christ, est un rempart contre toute culpabilité. Qui accusera les élus Dieu ? Il y a des gens qui accusent, hein, bien sûr. Hein. Pas le diable lui-même accuse. Il est appelé dans l'Apocalypse l'accusateur des frères, n'est-ce pas ? Jésus lui-même, il a été accusé hein, quand il était sur la terre, faussement accusé, a été accusé. Et je crois que les enfants de Dieu sont accusés. Hein. On est accusé hein, quand on entend parler de ce virus. Hein, cette église dans l'est de la France a été accusée d'être à l'origine presque de l'épidémie en France. N'est-ce pas ? Et on accuse. Il faut toujours trouver des boucs émissaires, n'est-ce pas, quelque part. Et souvent, les enfants de Dieu sont les premiers qui sont montrés du doigt. Et donc, les accusations, il y en a toujours, il y en aura toujours. Après, c'est comment est-ce que l'enfant de Dieu considère ces choses ? Comment est-ce qu'il prend ces choses ici ? Il y a ce type d'accusation. Mais il y a des accusations aussi qui peuvent nous amener à douter de l'affection de Dieu, à douter même de notre salut. Parfois, ou de celui des autres aussi. On accuse des gens avec des choses. Ah, il a fait ça, mais c'est pas possible qu'il soit sauvé en ayant fait ceci. D'accord. Mais l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui justifie. C'est pas les humains qui justifient. C'est pas nous, entre frères et sœurs, qui nous justifions. C'est Dieu qui justifie. Et personne ne peut accuser ses élus. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, Paul attire ici l'attention sur la souveraineté de Dieu dans la justification. C'est Dieu qui justifie. Et dans l'Écriture, on a une illustration, une vision d'un prophète qui s'appelait le prophète Zacharie. Et Dieu lui fait voir, regardez Zacharie, donc c'est juste avant Malachie. Hein. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu, et Zacharie chapitre 3, il est dit ici, le prophète est amené dans une vision, et il dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Lui qui a élu, hein, c'est ça que ça veut dire. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Puis un peu plus loin, on voit que Josué, verset 3, était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et après, l'ange dit, verset 4, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Ça, c'est comme Dieu qui vient ici prendre la défense et dit, qui peut accuser l'enfant de Dieu, les élus de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui justifie ici. C'est ce qui s'est passé avec Josué. Hein. Le diable est venu, il a accusé. Voilà, certainement, il a des vêtements sales. Il pêche, c'est un pécheur, il est plein d'iniquité. Et puis, Dieu dit, l'Éternel te réprime. L'Éternel te récuse, l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a, dit-il, choisi Jérusalem.
Ça veut dire, c'est lui qui l'a justifié, c'est lui qui l'a élu. Et personne d'autre ne peut faire quoi que ce soit. C'est extraordinaire ça, n'est-ce pas? Je pense que ce que Paul dit ici, c'est un peu une réminiscence de ce qu'on trouve en Ésaïe, chapitre 50, où on appelle ça le chant du serviteur. Hein, certainement, ça parle un peu de Christ aussi, mais il dit « Celui qui me justifie est proche », Ésaïe 59, 9, « qui disputera contre moi ?» Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Celui qui me justifie est proche, dit Ésaïe. Donc c'est Dieu qui justifie. Et comme tel est le cas, donc personne ne peut accuser les élus de Dieu. Il n'y a pas de cour de cassation. D'accord? Quand Dieu a déclaré juste. Personne ne peut dire, je fais appel à la cour de cassation pour casser ce jugement. Cet homme n'est pas juste. Quand Dieu a déclaré juste, personne ne peut déclarer injuste. C'est exactement ce que Dieu avait dit à Pierre. Rappelez-vous dans l'histoire dans la vision qu'il avait eue. Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Et personne sur la surface de la terre, personne dans l'univers ne peut défaire, ne peut déclarer injuste ce que Dieu a déclaré juste. C'est ce que Paul dit ici. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi, ce qu'il a appelé, il les a justifiés, ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et donc tout est fait, tout est déjà scellé. Et donc il n'y a plus aucune accusation qui tienne contre un enfant de Dieu. Ah bien sûr, l'enfant de Dieu pêche. Bien sûr, nous péchons. Bien sûr, nous péchons. Mais personne ne peut dire, ah tu as péché, donc tu n'es plus un enfant de Dieu. Parce que c'est Dieu qui justifie. La Bible dit en Romains 11, 29 que les dons de Dieu et son appel ne sont pas révocables. Ne sont pas révocables. Quelle grâce, chers frères et sœurs. Quelle grâce. Alors, comment est-ce que Dieu justifie? Je voudrais juste lire cela. Eh bien, regardez en Romains chapitre 3, versets 20 à 24. Il justifie pas en disant, ah, c'est un gars, il est gentil, il m'aime bien, il va à l'église, il est serviable, il est toujours disposé quand on lui demande quelque chose, il joue bien de la musique, ou il aime distribuer les traités. Non, c'est pas cela. Il dit, Romains 3, versets 20 à 24, car nul ne sera justifié devant Dieu devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà comment Dieu justifie. Il justifie en offrant sa propre justice, celle qui vient de lui. L'apôtre Paul dit ça en Philippiens, il dit qu'il veut être trouvé en Dieu, non avec sa propre justice, mais avec la justice qui vient de Dieu, celle qui s'obtient par la foi. Ici, c'est ainsi que Dieu justifie. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, le seul moyen d'être justifié, c'est de venir à Christ et de placer en lui votre confiance. C'est le seul moyen. C'est la rédemption qui est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. C'est la justice de Dieu. On la reçoit ou on la rejette. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'être justifié. Et les élus de Dieu, ceux qu'il a choisis, sont justifiés ainsi. Et personne, dit l'apôtre Paul, ne peut les accuser. Personne non plus ne peut les condamner. Et Paul dit, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le verset 1 du chapitre 8 commence comment? Est-ce que vous vous rappelez? Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul dit, qui les condamnera? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a toujours, bien sûr, des questions qui surgissent dans la conscience à cause du fait que nous regardons souvent à nos péchés. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul donne quatre raisons pour cela. Il dit, Christ est mort. Et donc, la Bible enseigne vraiment que la mort réelle et effective de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été pour l'expiation des péchés. Romains 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. D'accord? Et donc, concernant les élus, Christ a porté la peine de du péché qui les condamnait. Il est mort au péché, nous dit l'apôtre Paul. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, maintenant nous, mort au péché, nous vivions pour la justice. Tout cela parce que Christ est mort. Donc il y a une assurance dans le fait que Christ a expié nos péchés. Mais l'apôtre Paul dit plus que cela. Il n'est pas simplement mort, parce que s'il était juste mort, ça ne suffirait pas. Comment saurions-nous que nos péchés sont pardonnés si Christ était juste mort? Vous imaginez? Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, que c'est l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes toujours dans vos péchés. Donc ce n'est pas le fait qu'il soit mort seulement, il faut associer, il est mort et aussi ressuscité. Le fait qu'il est ressuscité, c'est la preuve que sa mort est vraiment une mort expiatoire. Donc Christ est mort, l'apôtre Paul dit bien plus, il est ressuscité. Et cela, c'est la garantie que l'œuvre qu'il a accomplie est parfaite, que tout ce qu'il a dit être, il a dit être le Fils de Dieu, il est vraiment le Fils de Dieu. Il a dit détruisez ce corps et en trois jours je le rebâtirai, bien ça s'est produit. Il a dit que ceux qui croient en lui, bien ils sont délivrés du péché, et bien ça c'est vrai, parce qu'il a été ressuscité, c'est la preuve que Dieu a approuvé tout ce que cet homme a dit étant sur cette terre. Donc il est vraiment le sauveur du monde. Il est mort, et donc il a vraiment expié nos péchés dans sa mort. Il est ressuscité, l'apôtre Paul dit dans Romains 4, 25, je crois, pour notre justification. Et puis il parle aussi de l'intronisation, il est à la droite de Dieu, c'est la position d'honneur et de pouvoir, rappelez-vous, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et puis aussi, quatrième raison qu'il donne, c'est que Christ maintenant intercède pour nous. Il prie continuellement pour nous, il intercède pour nous. Le frère dans sa prière a fait référence au passage d'Hébreux 7, 25 qui dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est vivant, éternellement vivant. » Et puis il ajoute « Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Vous imaginez dans le ciel, il y a la seconde personne de la Trinité qui est Dieu, éternellement Dieu, qui intercède pour ses élus, qui se présente devant Dieu en faveur de ses élus. C'est quelque chose, hein? On aimerait avoir une entrée à l'Élysée pour qu'il y ait quelqu'un qui ait du poids, qui plaide pour notre cause, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible dit que nous avons dans le ciel le Fils de Dieu qui intercède pour nous. Et ils le disent comme cela en hébreu. Il dit, car Christ n'est pas entré dans le... Hébreux 9, 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Pourquoi faire? Est-ce que vous rappelez la suite? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est extraordinaire ça, n'est-ce pas? Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant, dit-il, pour nous, devant la face du Dieu très saint et du juge de tout l'univers. Pour nous, ça veut dire en notre faveur, hein? En faveur de ses enfants. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Il le montre par le sacrifice de son Fils. Il le montre par le ministère encore d'intercession continuelle aujourd'hui que le Christ opère même. Il le montre aussi par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qui témoigne dans notre propre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander et qui garantit notre résurrection corporelle, notre rédemption finale. Pouvons-nous dire que Dieu n'est pas avec ses enfants? Voilà tout ce que Dieu a fait. Paul dit ici, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quand nous lisons, relisons encore ce chapitre 8, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous. Et cela devrait nous suffire. Dieu est pour nous. Et absolument rien ne peut ébranler cette certitude que Dieu est pour nous et qu'un jour, nous verrons sa face. Parce qu'il a lui-même offert son propre fils pour nous épargner de sa colère. Et nous ne devons jamais oublier cela. C'est-à-dire que la vie du chrétien ne doit pas être une vie dans laquelle il pense à cela le dimanche, et puis demain c'est déjà autre chose. On est au lycée, on est au travail, et puis voilà. Ce sont des vérités qui sont bien, mais non, elles doivent nous accompagner tout le temps. Quand les difficultés arrivent, nous devons tout de suite, comme Paul le montre ici, regardez à ce que Christ a fait. Il n'y a pas d'encouragement plus profond, il n'y a pas d'appui, de fondement plus solide, il n'y a pas de chose plus grande que l'on puisse trouver pour nous encourager que ce que Christ a fait, que ce que Dieu nous a donné à la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de chose plus grande que cela. Donc ne dissocions pas dans notre vie un aspect spirituel, un aspect, comment je vais dire, matériel, mais dans tous les aspects de notre vie, sachons regarder à Jésus-Christ et à tout ce qu'il a fait. Personne ne peut efficacement être contre nous. Personne ne peut nous accuser efficacement. Personne ne peut nous condamner efficacement. Et à la fin, il dit que personne ne peut nous séparer même de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quand même, il ne dit pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Il dit l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il faut savoir de quel amour on parle. C'est cet amour-là qui est le plus important. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses et à vivre pour lui sans crainte. Sans crainte. Dieu est pour nous. Méditons ces choses. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Donc, ne laissons pas les choses matérielles ébranler cette assurance que Dieu veut nous donner. Il a un projet merveilleux de nous transformer à l'image de son Fils. Mais cela, il le fait avec ceux qui sont ses élus, ceux qui ont placé en lui sa confiance. Si tel n'est pas le cas, la première chose que vous avez à faire ce matin en entendant sa voix, c'est de vous tourner vers Christ, de venir à lui, de crier à lui, de venir, comme le dit Esaïe, sans argent, de venir et vous trouverez la vie. Et la vie à jamais. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole, qui est la vérité. Merci. Merci de nous avoir ainsi aimés. Merci de nous avoir ainsi sauvés. Merci pour toutes ces choses qui dépassent notre entendement, que nous avons lues dans ce chapitre. Et je te prie que par ton esprit, tu nous fasses jouir encore davantage que ce que nous avons pu exprimer avec nos mots. Que tu nous fasses jouir vraiment la réalité de ces choses. Seigneur, donne-nous des regards qui s'appuient, qui se tournent vers toi. Donne-nous de poser vraiment notre confiance sur ces pierres solides que nous avons lues dans ta parole, Seigneur, que nous avons vues dans ta parole. Et que nous soyons un témoignage vraiment de la confiance, de la sécurité auprès de tous ceux qui nous côtoient dans cette période particulièrement difficile que nous traversons. Seigneur, que nous ne nous affligions pas comme les autres, mais que nous puissions, tout en étant attentionnés envers les autres, Seigneur, que nous puissions manifester cette confiance que tu nous donnes en vertu du sacrifice de Christ qui a été accompli pour nous à la croix du calvaire. Agis dans nos cœurs de la sorte, nous te prions. Nous te demandons aussi de toucher les cœurs de ceux qui ne sont pas encore à toi, de les attirer. Seigneur, tu les connais. Tu connais tes enfants. Tu sais tes brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous te prions de les amener dans ta bergerie pour la gloire de ton nom. Amen.